Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit.
Conflit israélo-palestinien. Reprenons la chronologie. En novembre 1947, l'Organisation des Nations Unies, l'ONU, vote le plan de partage de la Palestine. S'ensuit une guerre entre juifs et arabes en Palestine. L'année suivante, en mai 1948, David Ben-Gourion proclame l'État d'Israël. S'ensuit une guerre israélo-arabe. L'année suivante, encore en mai 1949, Israël est admis à l'ONU. Oui, et les Palestiniens, comment s'organisent-ils entre violence et négociation? Quels moyens d'action? Fatah, Fedayeen, OLP, Yasser Arafat, une histoire de l'organisation de libération de la Palestine.
C'est une journée qui s'annonçait paisible à Gaza.
Agression caractérisée, disent les Arabes. Riposte préventive, rétorquent les Israéliens.
Tout va basculer en quelques minutes.
Qu'est-ce que c'est que le septembre noir?
La reconnaissance d'Israël n'a pas avancé.
Yasser Arafat, le chef de l'OLP, signe le jeudi 9 septembre 1993 à Tunis la lettre de reconnaissance de l'État d'Israël.
Je suis un rebelle.
Ce que nous venons d'entendre là, Jean-Paul Chagnolot, c'est un peu notre histoire à nous tous. Hein. C'est cette chronologie qui rythme l'actualité depuis ces années 40, 50, 60, aujourd'hui tout le temps, avec des noms qui reviennent sans cesse. Dites-nous, j'ai rappelé la chronologie. Dès 1948, à la proclamation de l'État d'Israël, est-ce que les Palestiniens s'organisent déjà?
Je crois que, effectivement, c'est le bon point de départ. Je sais que vous avez fait des émissions sur les périodes précédentes, mais juste en un mot, rappeler que l'origine de ce conflit, c'est donc, on va dire, le mandat britannique en 1922. Et il y a eu déjà des tentatives de partage de la Palestine en 1937 par les Britanniques. Et puis il y a déjà eu une guerre en 1936, 37, 38, enfin une guerre civile, mais c'était quand même une guerre avec beaucoup, beaucoup de victimes. Et ce qui est important, c'est qu'au fond, il y avait une structuration nationale du côté du mouvement sioniste. Et cette structuration nationale du côté palestinien était encore, on va dire, inachevée. Et quand on arrive à la guerre de 1948-49, au moment où il y a la création de l'État d'Israël le 14 mai, comme vous venez de le rappeler, eh bien, en fait, cette structuration conduit à cette possibilité d'une création d'un État, et du côté palestinien, c'est au contraire un éclatement. D'autant plus qu'une segmentation, une fragmentation, d'autant plus que les élites palestiniennes ont été assez largement décimées pendant cette période 36-39 de cette guerre dont je vous parlais tout à l'heure. Et donc, on n'a aucun dirigeant qui soit crédible. Le moufti Al-Hussein est complètement démonétisé, parce qu'en plus, il a rencontré Hitler, donc évidemment on est dans une situation totalement impossible d'un point de vue politique, et il n'est plus du tout d'ancrage. Et donc ceux qui vont se battre, alors il y a quelques Palestiniens qui se battent, il y a des contingents palestiniens mais très mal organisés. En réalité, ce sont les États. Et ce qui se passe en 48-49, chacun le sait, c'est qu'à l'issue de cette guerre, ce qui aurait pu être un État palestinien, si on avait appliqué la résolution 181 de 1947, eh bien, c'est-à-dire ce qui correspondrait aujourd'hui à la Cisjordanie, à Jérusalem Est, évidemment à la bande de Gaza, mais une bande de Gaza beaucoup plus importante que celle qui est résultée justement de la guerre de 48-49, eh bien, en fait, ça a été pris par les Arabes. La Jordanie, qui n'était qu'à ce moment-là la Transjordanie, a annexé la Cisjordanie, et c'est comme ça qu'a été créée la Jordanie. Et donc, disparaît ainsi le potentiel territoire d'un État palestinien. Et Gaza, qui était sous domination égyptienne sur le plan militaire, va être sous administration égyptienne, donc de 1949 jusqu'à la guerre de 67. Donc pendant toute cette période de 20 ans, on peut dire que les Palestiniens sortent de l'histoire ou sont chassés d'histoire, comme on voudra, et le nationalisme palestinien, qui était déjà en germe, en structuration, est en quelque sorte profondément affaibli. Et ceux qui vont porter le nationalisme palestinien à ce moment-là, je dirais avec eux, et avec un morceau de leur territoire, ce sont les Palestiniens qui quittent le territoire sur lequel l'État d'Israël s'installe, c'est-à-dire les réfugiés qui vont aller au Liban, qui vont aller en Jordanie. Il y a beaucoup de réfugiés en Jordanie. Et puis, c'est très important par rapport à l'actualité aujourd'hui, c'est qu'ils vont à Gaza, qui est sous administration égyptienne. Ce qui fait que, disons, en 49-50, la population de Gaza, c'est 90% de réfugiés, c'est-à-dire des gens qui habitaient dans la Palestine à 10, 30, 50, 100 kilomètres, tout près, parce que c'est un tout petit territoire, 2-3 départements français. Donc voilà, donc les Palestiniens disparaissent. Et on ne parle plus sur le plan international que de la question des réfugiés. Et donc on n'utilise même plus le mot palestinien. Et pour prendre un exemple très concret, juridiquement repérable, la première résolution, après la guerre de 67, quand on y viendra tout à l'heure, il y a une résolution importante qui est la résolution 242 de novembre 1967, qui est fondamentale comme résolution. C'est la première après 67. Eh bien, elle dit, il faut que les territoires soient restitués aux États. Et quand on parle des réfugiés, il y a une ligne sur les réfugiés. On met même pas le mot palestinien. Et il faudra un juste règlement des réfugiés, pointer la ligne. Autrement dit, les Palestiniens ont disparu. Ouais. Alors évidemment, il y a des militants, il y a des hommes, on va y venir sans doute, qui vont essayer justement, dans cette situation, qui est vraiment une situation de vide historique, on est comme enseveli par d'autres événements qui vous dépassent, et on est inaudible, complètement inaudible. Et j'ajoute un point encore dans ce contexte, si vous permettez, c'est le fait que nous sommes, disons, dans les années 50, et quel est le personnage clé du monde arabe? C'est Nasser. Et tout passe par Nasser. Et à partir de 1956, c'est-à-dire après l'échec de l'expédition de Suez montée par la Grande-Bretagne, Israël et la France, il sort vainqueur politiquement de cette affaire. Et donc c'est vraiment le héros. Et c'est lui qui dit souvent dans ses discours, nous libérerons la Palestine, mais nous libérerons la Palestine après que nous ayons fait l'unité arabe, une espèce d'utopie nationaliste arabe, mais qui domine complètement aussi les Palestiniens qui voudraient pouvoir, là où ils sont, réfugiés ou ailleurs, qui voudraient pouvoir réexister en tant que Palestiniens. Donc ils sont à la fois ensevelis par l'histoire et ensevelis par ce discours nationaliste arabe de Nasser. Et moi, je me souviens de gens qui me disaient autrefois, pour parler de la Palestine, pour écouter le destin de la Palestine, on prenait un histoire pour écouter Nasser. C'était Nasser. Et donc, c'était vraiment ça. Et Nasser, évidemment, la Palestine, c'était une instrumentalisation au nom de sa politique globale, qui était en fait une volonté d'hégémonie sur le monde arabe. Et c'était le personnage absolument incontournable. On n'a pas idée aujourd'hui de ce que représentait, surtout après Suez, le charisme et l'importance de Nasser.
Dans la construction d'un État palestinien, ou la construction d'un État, faut l'identité nationale, c'est déjà très important, ça se construit, et puis faut des élites. Alors on a bien compris que le grand mufti de Jérusalem, vous l'avez dit, hein, décribilisé, démonétisé.
Amin al-Husseini, oui.
Oui, parce que trop proche des nazis, ça ne marche pas. Et puis de toute façon, la question religieuse n'est pas à ce moment-là du tout au cœur du propos. Tout. Et puis après, les grandes figures qui peuvent porter cela, ce sont des figures, vous venez de le dire, l'Égyptien Nasser, qui ne sont pas palestiniens. Il y a les réfugiés. Est-ce que, au cœur de ces réfugiés palestiniens, on va voir apparaître certains qui vont porter le mouvement? Je pense évidemment à Yasser Arafat.
Bien sûr. Et il faut bien lier les deux choses. Et pas simplement pour cette période-là, mais même pour la suite. Lier le fait, au fond, d'une renaissance du nationalisme palestinien. Ce qui veut dire concrètement que les uns et les autres se sentent palestiniens. Où qu'il soit. Et ça va prendre beaucoup de temps. On pourrait prendre des exemples très concrets. Et puis, par ailleurs, il y a des gens qui sont déjà dans le nationalisme, c'est-à-dire les élites. Et au fond, le nationalisme, c'est quoi? C'est la volonté de construire un État, un toit politique, comme disait un anthropologue anglais, un toit politique pour une nation. Or, il faut donc une structuration, il faut un leader, mais il faut aussi que ça fasse nation. Or, si vous prenez les gens qui sont entre 1950 et 1967 en Jordanie et en Cisjordanie, comment ils sont socialisés? Est-ce qu'ils sont socialisés par des livres d'histoire? Est-ce qu'ils sont socialisés palestiniens ou est-ce qu'ils sont socialisés jordaniens? La réponse est dans la question. Ils sont socialisés jordaniens. Il n'était pas question que dans ce cadre-là, on puisse parler d'un nationalisme palestinien. Donc en Cisjordanie, ils étaient vraiment socialisés, avec cette différence que ceux qui étaient réfugiés étaient beaucoup moins, disponibles pour ce récit national jordanien. Et ceux qui n'étaient pas du tout, c'était ceux de Gaza. Ceux de Gaza étaient sous administration égyptienne, comme je dis tout à l'heure. Et eux, ils étaient avec la clé de leur maison. Donc ils étaient palestiniens, ils étaient dans un rapport presque charnel à leur territoire, avec cette idée fondamentale, on va revenir, c'est le retour, le grand retour. Donc vous voyez, en Cisjordanie, beaucoup moins qu'à Gaza, il fallait reconstruire ou constituer un nationalisme palestinien contre la Jordanie qui ne voulait pas entendre parler. Donc on a cet élément-là. Donc Arafat, qui arrive donc avec la création du Fatah en 1959, il est dans ce contexte-là, un contexte où c'est dominé par Nasser, et puis c'est dominé en Cisjordanie par un récit national jordanien avec des grandes familles qui sont proches du trône et qui tiennent les villes, par exemple, pour pouvoir avoir l'évolution après. Donc toute cette période est une période presque impossible. Comment réussir à la fois à parler au nom de la Palestine et faire en sorte que la Palestine se sente elle-même une nation en construction après tous les événements qui l'ont complètement fragmentée, dispersée, assommée, dans tous les sens du cas. Voilà. Et donc 67 va être l'année clé. Et entre-temps, il y a, pour aller dans le même sens que je viens de dire, par un exemple très, très puisqu'on parle de l'OLP, l'OLP est créée quand ? Vous alliez me poser la question.
Elle est créée quand, l'OLP ?
Voilà, je vous réponds à la question. C'est 64, en 64, donc dans cette période-là. Et créée par qui ? Elle est créée, il y a des Palestiniens, bien sûr, mais elle est créée par Nasser, avec le soutien du roi Hussein. Et pourquoi est-ce qu'ils créent l'OLP à ce moment-là ? C'est parce qu'ils savent qu'il y a vraiment un mouvement qui s'esquisse, qui se construit, qui se structure, qu'est le mouvement nationaliste du Fatah, avec Arafat, à partir du début des années 60. Et il n'est pas question que Nasser se fasse déborder. Et donc, il s'agit de contrôler. Et on contrôle comment ? Eh bien, en créant une organisation, l'Organisation de Libération de la Palestine, dont la mission, à ce moment-là, c'est d'abord l'unité arabe avant la Palestine. C'est l'unité arabe qui va permettre la libération de la Palestine, parce que c'est comme ça qu'on parle à cette époque-là. Donc voilà, on est en ce schéma-là, et donc l'OLP n'est pas palestinienne, même si le patron de cette OLP, c'est Ahmed Choukairi. Ahmed Choukairi, c'est un Palestinien, mais un Palestinien complètement homme de paille. Il était à la Ligue arabe avec Nasser. Donc c'est vraiment une affaire très largement égyptienne pour essayer de contrôler, et il y arrive. À ce moment-là, on peut contrôler ces personnages qui apparaissent et qui sont encore naissants. Donc, mais les premières actions armées du Fatah, c'est 1965, donc l'année suivante. Et qui réprime les actions du Fatah, puisqu'il faut passer à travers la Jordanie pour aller en Israël faire la guerre? C'est évidemment les Jordaniens.
Ah oui, c'est plein de paradoxes, Jean-Paul Chagnolo, cette histoire-là, parce que, et c'est l'importance du recul de l'histoire, c'est que dans cette période des années 1950-1960, l'Égypte ou la Jordanie ne sont pas en train de combattre pour la création d'un État palestinien, c'est pas du tout le cas. Ils sont en train de dominer des territoires palestiniens. Avec ce Fatah, c'est un mouvement armé donc qui vient des Palestiniens et qui veut combattre pour la reconnaissance de leurs droits.
Oui, c'est ça, mais quand vous dites que ce sont des territoires palestiniens, mais en fait, c'est des territoires qui peuvent être jordaniens. S'il n'y avait pas eu la guerre de 67, alors faisons un peu d'uchronie, s'il n'y avait pas eu la guerre de 67, eh bien, la socialisation qui a duré une génération, elle aurait sans doute perduré. Et je ne sais pas ce qui serait advenu du nationalisme palestinien. La rupture, la cassure, c'est 1967, pour des raisons qu'on verra sans doute tout à l'heure. Mais donc, on est dans ce schéma-là où on est... Les États arabes, ils pensent à quoi ? Ils pensent aux États arabes. Je veux dire, ils pensent à leur intérêt national. Il n'est pas question... puisque l'OLP, là, à ce moment-là, est créé pour instrumentaliser, pour contrôler ce nationalisme renaissant des Palestiniens. Donc voilà, c'est très clair. L'Égypte, évidemment, veut absolument tout maîtriser. Et les Jordaniens, en plus, les Jordaniens, c'est vital pour eux. Puisque, et d'ailleurs, par la suite, on le verra à quel point c'est vital quand on arrivera à septembre 70 ou cette période-là. Mais là, si nous sommes encore avant 67, il faut vraiment bien distinguer avant et après 67. Les Jordaniens veulent être Jordaniens et font tout pour qu'il y ait une socialisation. Et encore un mot important, qui contrôle Jérusalem à ce moment-là ? C'est la Jordanie. C'est la guerre de 48 fait que on ne prend pas Jérusalem, et donc cette partie de Jérusalem sera prise bien plus tard en 67. Donc Jérusalem aurait pu être mise en avant par les Jordaniens sur tous les plans, politiques, religieux, bien entendu, etc. Or pas du tout. C'est Amman qui est la ville, Jérusalem n'a guère été développée pendant cette période. Donc vous voyez, et encore un mot, quand le roi Abdallah, le premier roi donc jordanien de Transjordanie annexe la Cisjordanie, comme je l'ai dit, après la guerre de 48-49, il sera assassiné par un Palestinien. Parce que précisément, pour les Palestiniens, c'était quelque chose d'inacceptable, puisqu'ils voulaient pouvoir revendiquer. Mais à ce moment-là, les Palestiniens ne pèsent pas grand-chose. Donc ils assassinent le roi, bon, mais ça ne change rien à la géopolitique. Le fils d'Abdallah, Talal, prend le pouvoir quelque temps, mais comme il n'était pas très pro-britannique, il n'est pas resté longtemps. Et ensuite, c'est un personnage qui va régner pratiquement 50 ans, c'est le roi Hussein.
Oui, parce que pour les Palestiniens de ces années-là, 50-60, il faut combattre, bon alors, éventuellement l'État d'Israël, c'est ce que fait le Fatah, mais également les Jordaniens et pourquoi pas les Égyptiens. C'est pas simple du tout. Je pense, Jean-Paul Chagnolo, que les plus attentifs des auditeurs, des auditrices auront repéré que l'année 1967 est une rupture.
Juin à l'aube, les avions israéliens foncent sur les objectifs militaires d'Égypte, de Syrie et de Jordanie. Du même coup s'évanouit tout espoir d'un règlement pacifique de la tension qui règne depuis plusieurs semaines au Proche-Orient. Agression caractérisée, disent les Arabes, riposte préventive, rétorquent les Israéliens. Nos radars ont décelé la présence d'une force aérienne ennemie en route pour Tel Aviv. En 3 heures, l'aviation arabe sera anéantie. L'équilibre des forces étant brutalement rompu en sa faveur, l'armée israélienne entre en action dans le Sinaï. Une première colonne isole la bande côtière de Gaza, une autre prend la direction de l'ouest. Objectif lointain, El Kantara et le canal de Suez. Objectif immédiat, la ville et le camp d'El Arish. Dans le désert, les blindés égyptiens immobilisés définitivement sont nombreux. L'extrême mobilité des forces israéliennes et l'effet de surprise ont été décisifs.
La guerre des six jours présentée dans les actualités françaises, on est donc en 1967. Jean-Paul Chagnolo, pourquoi cette guerre ?
C'est, vous savez, il y a toujours des interprétations multiples. Donc il ne faut pas prétendre en donner une étant supposé qu'elle soit la bonne. Mais enfin, l'idée, globalement, c'est que à partir du printemps 1967, il y avait une grande tension en particulier sur la frontière entre Israël et la Syrie. Les Syriens ont mené quelques actions violentes et Nasser a essayé de contrôler tout ça, car je ne crois pas qu'il voulait cette guerre. Ensuite, il y a eu une espèce d'enchaînement, un entraînement qui s'est fait à l'initiative de Nasser. Il a voulu essayer de garder le contrôle et il l'a perdu en définitive. Il ne faut pas oublier que depuis l'affaire de Suez, 1956, cette agression tripartite, Grande-Bretagne, France, Israël, contre l'Égypte pour essayer de casser le régime égyptien et dont le régime égyptien est sorti renforcé. Donc les Nations Unies ont installé des casques bleus au Sinaï sur la frontière entre l'Égypte et Israël, du côté égyptien. Et donc c'était une manière de dire on va éviter une confrontation armée. Mais en fait, ça s'est passé en quelques jours de manière très particulière, c'est-à-dire que le secrétaire général de l'époque des Nations Unies, qui s'appelait Utente, reçoit une demande du Caire en disant « retirez en partie vos troupes ». Enfin, vos troupes, oui, vos casques bleus. Troupes, c'est un grand mot parce qu'ils ne sont pas vraiment armés. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Nasser, au lieu d'accepter un retrait partiel, ou essayer, il dit « c'est tout ou rien ». Et finalement, comme Utente, et là, il a sans doute une responsabilité, et c'est là où je dis l'interprétation a toujours ses limites, mais je pense que Utente a une responsabilité parce qu'au fond, là, il dit on enlève tout le monde. Et si on enlève tout le contingent, ça veut dire que la frontière devient maintenant un possible lieu d'affrontement. Et ensuite, Nasser continue et va bloquer le golfe d'Aqaba, blocus du golfe d'Aqaba, qui était considéré comme un casus belli par Israël. Et donc, on est dans une espèce d'engrenage qui s'accélère au mois de mai et fin mai. Et finalement, les Israéliens, alors c'est là où les mots ont leur importance, est-ce que c'est une guerre préemptive, c'est-à-dire parce qu'on s'attendait à ce qu'on soit immédiatement attaqué, ou préventive, parce qu'elle serait un peu plus tard. Vous voyez, il y a tout un débat d'historiens là-dessus. Mais en tout cas, le fait est que les Israéliens, autour d'un gouvernement d'union nationale, ça rappelle quelque chose de l'actualité, dans des conditions radicalement différentes, hein, il faut être clair, eh bien, vont décider d'attaquer les Syriens, les Jordaniens et les Et puis l'Égypte, évidemment, et ça a été décrit dans le reportage tout à l'heure, ça a été liquidé, non pas en quelques jours, on dit la guerre des six jours, mais en quelques heures, c'était bouclé, puisque très vite, Israël a eu la maîtrise du ciel. Et par conséquent, à partir de là, les chars en dessous, surtout dans le Sinaï, évidemment, ils avaient guère d'endroits pour se cacher. Donc ça a été réglé. Et cette guerre, donc, à mon avis, là encore une interprétation, donc faut pas que vos auditeurs prennent ça pour argent comptant, il faut qu'ils prennent ça comme une hypothèse sur laquelle on discute, mais je crois que personne vraiment ne voulait cette guerre, sauf toujours certains en Israël ou ailleurs qui voulaient en découdre, les Syriens et certains membres du gouvernement israélien qui au fond trouvaient là une opportunité pour continuer à mettre la main sur les territoires de la Palestine. Bon, vous voyez, on peut longuement discuter de ça, on va pas le faire maintenant, mais le résultat concret, c'est qu'il y a deux choses, sur le plan territorial et sur le plan idéologique. Sur le plan territorial, Israël occupe la Cisjordanie et donc Jérusalem. L'occupation du Golan syrien et puis l'occupation du Sinaï. Autrement dit, deux choses. Un, Israël occupe des territoires d'États arabes, syriens et jordaniens, et puis ils occupent un territoire de la Jordanie, mais qui est finalement un territoire palestinien, ou qui va le devenir. Vous voyez l'ambiguïté qu'on évoquait tout à l'heure, et évidemment toute la bande de Gaza. Donc territorialement, c'est quelque chose de décisif. Et il y aura rétrocession après la guerre de 73 d'une partie du Golan, et rétrocession intégrale du Sinaï, qui aboutira à un traité de paix en 1979 entre l'Égypte et Israël. Mais la Cisjordanie, Jérusalem Est et Gaza sont toujours sous occupation. Ça, c'est l'aspect territorial qu'on voit encore aujourd'hui.
Les évidemment. Territoires occupés.
Voilà, les territoires occupés, Cisjordanie, dont Jérusalem-Est et Gaza. Et puis, il y a l'aspect idéologique. Ça, c'est fondamental. Je disais tout à l'heure que le récit dominant dans le monde arabe, c'était le nationalisme arabe, incarné longtemps par Nasser. Et en fait, ça voulait dire qu'on faisait confiance à Nasser pour libérer la Palestine. Et là, en l'espace de quelques heures, quelques jours, ça s'effondre, il perd pour des raisons militaires assez claires. Une partie de son armée, d'ailleurs, était, on l'oublie toujours, engluée au Yémen, dans une guerre au Yémen. Donc en fait, il avait même pas les bonnes troupes pour faire cette guerre. C'est pour ça que je dis que probablement il a pas voulu, il s'est laissé entraîner. En tout cas, c'est un débat d'historien. En tout cas, idéologiquement, le nationalisme arabe s'écroule. Et donc, pour le nationalisme palestinien, qui était en quelque sorte étouffé, contraint par le nationalisme arabe, eh bien, ça ouvre des perspectives nouvelles. Le nationalisme palestinien s'engouffre dans ce vide laissé brutalement par l'échec absolu, par le désastre de 67 et l'échec absolu du nationalisme arabe à ce moment-là, dans le concret. Et il y a une autre idéologie qui apparaît à ce moment-là, qui est pas encore très nette, on verra un peu plus tard, mais c'est l'islamisme. L'islamisme dont on parlait pas avant, Nasser, il y a une anecdote qu'on peut voir sur Internet. Il est devant un congrès et il raconte qu'il vient de rencontrer le chef des frères musulmans et en rigolant, et toute la salle rit. Il dit, vous rendez compte, il me demande de faire en sorte que les femmes soient voilées en Égypte. Vous rendez compte, tout le monde rit. Nous sommes en 53-54. Et il ajoute en plaisantant, il a envoyé sa fille, le chef des frères musulmans, faire ses études aux États-Unis. Alors déjà qu'il réussisse à voiler sa propre fille, après on en reparlera. Vous voyez, c'était sous le ton de... Ça n'avait pas de... Et puis, il y a eu... Je dis ça sous le ton de la plaisanterie, mais j'ai tort, parce qu'en réalité, en même temps, il y avait des frères musulmans qui étaient très importants et qui ont été liquidés physiquement, notamment un des chefs des frères musulmans, qui est Sayyid Qutb, qui est un des doctrinaires, qui a été pendu en 1966. Donc, mon anecdote, elle renvoie aussi, derrière, il y a une lutte sourde et importante contre les frères musulmans, avec laquelle, d'ailleurs, à un moment donné, Arafat a été plus ou moins proche. Il y a tout un débat là-dessus. En tout cas, ce qui est important, c'est de revenir à notre histoire de 67, changement territorial, donc changement géopolitique considérable, et ensuite affaissement du nationalisme arabe et ouverture d'un boulevard pour le nationalisme palestinien et par conséquent pour Arafat. Et ça, si je peux dire encore un mot là-dessus, c'est l'OLP de 64 était donc phagocyté par les Égyptiens, par Nasser, avec Ahmed Choukri, et puis lendemain de cette guerre, enfin le lendemain 68-69, février 69, les Palestiniens prennent le pouvoir de l'OLP. L'OLP devient vraiment palestinienne dès 68. Puisque là, le nationalisme, quand je parle d'effondrement ou d'affaissement idéologique, c'est aussi en termes d'organisation, de structure très concrète. Les Palestiniens, et Arafat devient le patron de l'OLP en février 69. Vous voyez, la chronologie, elle est très claire. Et du coup, l'OLP va devenir très vite le représentant des Palestiniens. Et du coup, en l'espace, cette guerre a permis finalement très largement à ce nationalisme palestinien qui essayait de se battre et se frayer un chemin, eh bien, ça s'est ouvert par cet échec nassérien en 1967.
L'OLP, l'Organisation de Libération de la Palestine, qui est créée en 1964, donc on est avant la guerre des six jours, qui regroupe plusieurs mouvements, notamment le Fatah de Yasser Arafat. Il y a plusieurs mouvements dans l'OFP, c'est une organisation, son nom l'indique bien. Et on voit ce passage qu'il y a, et vous venez de l'expliquer, Jean-Paul Chagnolot, entre quelque chose encore aux mains de l'Égypte à quelque chose qui est aux mains de Yasser Arafat, donc qui vient d'une famille palestinienne, mais qui a vécu en exil et qui est passé, Yasser Arafat, hein, par l'Égypte pour sa formation. On croise l'Égypte sans arrêt dans cette histoire.
En plus, il ne faut pas oublier, dans ce que vous évoquez, que Gaza, entre 1948-49 et 1967, est sous administration égyptienne. Par conséquent, je ne dis pas qu'on est en Égypte, mais en tout cas, c'est le contrôle égyptien qui est présent. Et donc, effectivement, le reste du territoire, ce qu'on appelle la Cisjordanie à cette époque, on peut y accéder facilement. Mais pour préciser les choses, on peut accéder facilement à la Cisjordanie via Amman jusqu'à Jérusalem-Est. Je n'ai pas précisé, j'aurais dû le faire, qu'en 1948, l'armée israélienne prend une partie de Jérusalem, mais la partie fondamentale, qui est la vieille ville, elle est, donc, comme je le disais tout à l'heure, sous domination jordanienne. Donc on a un Jérusalem-Ouest, un Jérusalem-Est, et le découpage se fait par rapport à la vieille ville, parce qu'au fond, l'armée israélienne, qui est absolument, en 48, je reviens une seconde là-dessus, est allée le plus loin possible sur Jérusalem, c'est un objectif évidemment, mais ils sont arrêtés juste, mais vraiment juste à 20 mètres, des murailles de la vieille ville, sans prendre la vieille ville.
Et voilà.
Et la vieille ville, donc, devient sous domination jordanienne.
En tout cas,
jusqu'en 67.
En 67, ces territoires, la Cisjordanie et la bande de Gaza, sont occupés, ces territoires occupés. C'est vraiment un mot qui revient sans cesse dans l'actualité. Dès lors, pour les Palestiniens qui souhaitent combattre, il faut trouver refuge quelque part. Pourquoi pas dans une grotte en Jordanie.
Tout d'abord, la reconnaissance ou la non-reconnaissance par les États ne prouve pas que c'est la vérité ou la réalité. Et cette reconnaissance ne devrait pas supprimer la légalité. La révolution palestinienne est elle aussi une réalité évidente.
Recherchez-vous une reconnaissance internationale? Est-ce que vous voulez former un gouvernement provisoire en exil?
Nous ne songeons pas à la formation d'un tel gouvernement. Mais ce qui nous importe dans cette reconnaissance, c'est de bénéficier d'un appui mondial de la part de tous ceux qui croient en notre cause. Tel est notre objectif majeur.
Pourtant, certains gouvernements arabes se plaignent de vos initiatives, au Liban par exemple.
En réalité, quelques gouvernements seulement se plaignent. Quant au peuple, ils sont avec nous sur toute la ligne. Nous représentons la volonté de toute la nation arabe, de l'océan au golfe Persique. Nous représentons la volonté des hommes libres et ceux qui recherchent la liberté à travers le monde.
Yasser Arafat, qui se trouve dans une grotte dans la vallée du Jourdain, donc en Jordanie, en 1969, et qui explique, et on entend ce mot de reconnaissance, il veut la reconnaissance pas seulement des Occidentaux, mais aussi des pays arabes.
Ah oui, nous sommes dans cette phase où, on l'a bien vu, n'est-ce pas, on a oublié les Palestiniens pendant 20 ans. Ils n'existent plus. C'est un raccourci rapide, mais c'est ça.
47-67, on va
voilà,
dire.
Voilà, c'est ça. Je vous dis, dans la résolution 242 de novembre 1967, il n'y a même pas le mot palestinien. On dit juste règlement des réfugiés. Donc on est dans cette phase, en 68-69, et il y a ce renouveau du nationalisme palestinien. Il y a aussi des moments très symboliques. Il y a une bataille militaire qui s'appelle la bataille de Karamé, en mars 1968, où des blindés israéliens sont repoussés par des fédaïnes palestiniens. Alors c'est une bataille sur le plan stratégique qui n'a pas beaucoup d'importance, mais sur le plan symbolique, c'est énorme, parce que ça voulait dire en clair que les Palestiniens ont réussi quelque chose là où les armées arabes avaient échoué. Alors évidemment, c'est sur le plan concret et géostratégique, ça n'a pas beaucoup de sens, mais l'important dans ces affaires-là, c'est le symbole. Donc effectivement, à partir du moment où il y a cette réaffirmation Avec en plus une profonde restructuration de l'OLP, du Fatah, et puis du FDLP, du FPLP, ce qui signifie très concrètement que toute une jeunesse palestinienne, car on peut lire la question palestinienne à travers des générations. Donc les gens qui ont subi 48, ils ont 20 ans en 68, et beaucoup de ces jeunes se disent, bon, voilà, nous avons trouvé l'endroit où on peut militer, et donc on est dans cette phase où il faut obtenir une reconnaissance. On a réussi à renaître à nos propres yeux, en quelque sorte, à se réaffirmer, à se réorganiser. Tout ce qui s'est passé pendant 20 ans est dépassé. Maintenant, évidemment, l'objectif, c'est comment se faire reconnaître sur le plan du monde arabe. C'est pas encore gagné, parce que les gouvernements arabes, on l'a vu, sont toujours été hostiles aux Palestiniens, pour plein de raisons. Et bien entendu, une reconnaissance internationale. Et la question que se pose tout, on va mettre entre guillemets, révolutionnaire dans une situation pareille, c'est est-ce qu'on y va par la diplomatie? Mais que veut dire la diplomatie quand on n'existe pas sur le plan politique encore vraiment? On commence à s'organiser. Ou bien par la violence? C'est la grande question toujours. Est-ce qu'on fait la résistance pacifique ou de la résistance armée? Et la violence est évidemment au cœur de tout ça.
Et puis l'OLP que nous évoquons depuis tout à l'heure, l'Organisation de Libération de la Palestine, qui est après 1967, enfin plutôt 68-69 aux mains de Yasser Arafat, est constituée, on l'a dit, de tous ces mouvements. Il y a le Fatah, il y a le Front Populaire de Libération de la Palestine, il y a le Front Démocratique pour la Libération de la Palestine. Jean-Paul Chagnolot, ces différents mouvements à l'intérieur même de l'OLP représentent différents modes d'action selon l'objectif voulu.
À ce moment-là, il y a un vrai débat, mais au fond, l'objectif tout de même de l'OLP à ce moment-là, avec la charte de 1968, c'est au fond la revendication qui est liée à toute l'histoire passée, qui consiste à dire on va revenir sur notre territoire. Il ne faut jamais oublier ce mot retour qui est absolument fondamental. Et donc ça signifie que le projet politique de l'OLP à ce moment-là, c'est non pas le rapport au territoire occupé, c'est trop tôt à ce moment-là. C'est un État démocratique où juifs, musulmans et chrétiens vivront en paix dans un seul État. C'est ça la position à ce moment-là et qui va durer encore des années. Évidemment, pour Israël, c'est évidemment totalement inacceptable parce que ça veut dire qu'il n'y a plus d'Israël. Mais c'est ça le projet. Et c'est un projet qui se comprend par le fait qu'on vient d'une histoire qui renvoie, ça nous paraît très loin, mais à cette époque-là, c'est pas tellement loin. C'est la guerre de 48, c'est le fait qu'on a toujours voulu, dans les années 30, un État de Palestine, comme les autres États. Il faut jamais oublier l'histoire. C'est-à-dire que la Palestine, c'est un mandat britannique, comme il y avait un mandat au Liban par la France, comme il y avait un mandat en Syrie, un mandat en Irak, et tous ces mandats ont conduit à l'autodétermination avec des conditions compliquées, mais les Irakiens ont eu leur souveraineté, les Syriens, les Libanais, enfin ça serait beaucoup plus compliqué, c'est une autre histoire, mais les Palestiniens non. Les Palestiniens, non, puisqu'il y a une immigration juive très importante dans le cadre du mandat Palestine, immigration juive qui s'explique en partie à partir de 1933 par l'arrivée d'Hitler au pouvoir et par conséquent les pogroms juifs, évidemment. Donc, mais voilà l'idée. Donc les Palestiniens sont sortis de l'histoire parce qu'au fond, une autre histoire terrible est arrivée en Europe. Il faut jamais oublier tout ça. Et donc, leur idée, jusqu'en 68 et même encore après, c'est de revenir donc sur l'intégralité du territoire de la Palestine.
Jean-Paul Chagnolot, j'insiste de manière peut-être un peu lourde, mais faut bien rappeler qu'il n'y a rien de religieux dans ce mouvement-là, et vous venez d'ailleurs de le dire, démocratique, voire laïque, au sens où il y a des juifs, des chrétiens, des musulmans dans un seul État qui s'appellerait la Palestine, par exemple.
Les islamistes ne sont pas dans l'OLP. Et il y a effectivement le FDLP, le FPLP, il y a des organisations de la société civile, il y a fondamentalement c'est le Fatah qui est l'organisation la plus importante, mais il n'y a pas les islamistes, et aujourd'hui il n'y a toujours pas les islamistes. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que dans ces années 68-70, et jusqu'en 1987, donc pendant les 10 ans qui vont, enfin 20 ans, et vous voyez les générations toujours, il faut toujours penser en termes de générations, les islamistes sont présents, il y a des frères musulmans en Palestine, ils sont là depuis 48 au moins. Mais qu'est-ce qu'ils veulent les frères musulmans? C'est pas la Hamas, c'est les frères musulmans. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent islamiser la société. C'est ça leur objectif. Et ils travaillent à ça. Et donc la question de l'occupation, qui va donc être centrale à partir de 67, évidemment, pour l'OLP et pour la géopolitique globale, eux sont pas dans cette ligne-là, du tout, du tout. Ils sont sur l'islamisation. Ils ne vont comprendre que s'ils veulent être en adéquation avec la population palestinienne de Cisjordanie et de Gaza, ils vont comprendre que s'ils veulent être dans cette adéquation, il est impératif de se positionner contre l'occupation. Et par conséquent, on aura ce basculement, sur lequel on reviendra peut-être, en 1987, avec l'intifada, qui est un moment clé, où du coup, les frères musulmans se rendent compte que s'ils en restent à cette posture, ils ont perdu. Et ils créent le Hamas. Le Hamas, ça veut dire mouvement de résistance islamique. C'est ça l'acronyme, hein, Al-Aqat, Al-Mudawama, ça veut dire le mouvement de résistance islamique. Et on se situe à ce moment-là. Mais entre 68 et 88, on va dire, pendant 20 ans, c'est l'islamisation de la société.
Et puis il y a un mot qui revient dans cette histoire-là, c'est celui de Fedaïn, ce sont des combattants.
Les Fedaïn, ce sont des commandos palestiniens qui ont fait la guerre contre l'Israël et l'impérialisme et la sioniste dans notre pays, la Palestine, qui est occupée déjà par Israël. Ce sont des hommes, et des ingénieurs, des docteurs, des travailleurs, des étudiants. Ils sont quittés leur travail et joindre avec cette révolution palestinienne pour libérer notre pays.
Votre président compare les Juifs aux nazis. Et les Juifs ont été les victimes des nazis.
Oui.
Ça ne vous semble pas bizarre?
Nous luttons contre l'impérialisme et les sionistes, n'est pas contre les Juifs. Les Juifs, c'est une religion comme les musulmans et les Christ. Nous ne sommes pas contre les Juifs.
Dans la presse occidentale, on vous appelle des terroristes et jamais des résistants. Est-ce que ça vous ennuie?
Toujours l'ennemi dire comme ça, des terroristes. Mais nous, nous sommes commandos et nous ne sommes pas terroristes.
Tous des Fedaïn. C'est en décembre 1968 et merci à la Sonuma pour cette archive de l'émission 9 millions. C'était sur la RTBF, donc les Belges qui avaient ici un regard porté sur ces événements, comme partout, il faut le dire, et sans cesse en Occident, avec un manque de compréhension. C'est pourquoi il est nécessaire, Jean-Paul Chagnolot, aujourd'hui encore, de faire ce retour historique. On l'entend bien dans cette archive. Hein. La religion, donc pas du tout au cœur du propos. Ce qu'ils combattent, c'est l'impérialisme. Faut aussi se replacer dans ces années, fin 1960, années 70, la lutte contre l'impérialisme, et puis des mouvements politiques très profonds. Le marxisme, le maoïsme, l'idée de la révolution, c'est là aussi.
Bien sûr, on est dans cette phase de la décolonisation, de ces mouvements de libération nationale, et le Fatah, c'est un mouvement qui utilise le mot tahrir, ça veut dire la libération, un mouvement de libération nationale. La masse plus tard parlera de résistance. Mais nous sommes vraiment dans cette situation-là. Donc il s'agit de libérer un pays qu'ils considèrent comme étant occupé. Alors évidemment, à partir du moment où ils utilisent la violence, la sémantique conduit à ce que les adversaires des Palestiniens à ce moment-là ils vont dire pour disqualifier. Ils vont qualifier l'autre de terroriste. C'est une vieille histoire qui traverse tous les mouvements de libération nationale jusqu'à aujourd'hui, évidemment. Quel meilleur moyen de disqualifier l'autre, c'est de le qualifier de terroriste. C'est-à-dire, on considère que c'est pas un ennemi légitime, et dès lors qu'on dit ça, et qu'on ne le considère plus comme un ennemi légitime, ça veut dire que on veut pas lui parler, mais on peut le tuer. On légitime le fait qu'on va le tuer. Il n'y a pas d'autre possibilité, puisque c'est pas un combattant légitime. C'est très fort comme affaire. Et à ce moment-là, la grande affaire pour les Palestiniens, ça va être de se distancier et de trouver un autre moyen, mais il faudra passer par des épreuves terribles où la violence sera au cœur de tout cela, et la violence qu'on peut qualifier de terroriste dès lors que des innocents, des civils ont été tués dans un objectif ou dans un but politique. C'est l'affaire de septembre 70, c'est l'affaire de Munich en 1972 où un commando palestinien qui va donc être considéré comme terroriste, qui va prendre en otage les athlètes israéliens à Munich, et ça va se passer très mal. Tous les otages vont être tués. Enfin, mais le problème pour les Palestiniens, c'est terrible et c'est très cynique. Ils ont pris les Jeux Olympiques de 72, et donc c'est un moment de retentissement mondial, évidemment. Donc par la violence, on prétend se faire reconnaître, mais on se fait reconnaître comme des terroristes. Vous voyez cette ambivalence, mais elle est inhérente à tous les mouvements de libération nationale. C'est pas une raison, je les justifie pas, je dis simplement, je constate.
Munich, 1972.
Brusquement, le 5 septembre, le climat change du tout au tout. Vers 7h30 le matin, un bruit court. Des Arabes, des Palestiniens se sont emparés des locaux de la délégation israélienne et tiennent un certain nombre d'athlètes en otage. Bientôt, la nouvelle est confirmée. La police encercle les bâtiments Et l'on sait que c'est Septembre Noir, la fameuse organisation palestinienne, qui est à l'origine de l'attentat. Qu'est-ce que c'est que Septembre Noir ? Septembre Noir, c'est un groupe d'extrémistes palestiniens qui s'est juré de venger le terrible massacre des Palestiniens intervenu en septembre 1970 du fait non pas des Israéliens, mais des troupes royales jordaniennes, d'où le nom de Septembre Noir. Les groupes de Septembre Noir se sont déjà rendus célèbres par l'assassinat du premier ministre jordanien, Wasvital, par le détournement d'un avion de la Sabena, et enfin, plus récemment, par l'incendie à Trieste d'importants dépôts de pétrole occidental. Alors voilà qu'ils viennent tout d'un coup troubler la paix olympique.
Nous étions en 1972 à Munich au moment de cette prise d'otage, c'est une véritable horreur. Mais dans l'archive que nous venons d'entendre, Jean-Paul Chagnoulot, il y a cette complexité rappelée et il faut toujours mettre en avant la complexité. Vous êtes professeur émérite des universités, président de l'Institut Recherche et Études Méditerranée Moyen-Orient. Septembre Noir, le nom de ce mouvement qui a fait la prise d'otage à Munich en 1972, évoque le mois de septembre, deux ans plus tôt, 1970, mais l'ennemi n'était pas Israël, l'ennemi c'était la Jordanie.
En fait, on l'a évoqué tout à l'heure, où pouvait s'installer l'OLP ? Et donc l'OLP, qui est sur ce projet dont j'ai parlé, et qui est évidemment armé, enfin qui essaie de s'armer et qui s'arme. Et ça veut dire qu'ils le font sur le territoire d'un État souverain qu'est la Jordanie. Et ils le font avec tellement de, comment dirais-je, de présence, au sens le plus fort du terme. Ils vont, et certains de ces groupes, le FPLP en l'occurrence, va détourner des avions sur Sarqa. Donc il y aura vraiment, pour le pouvoir jordanien, c'est inacceptable que le territoire d'un État souverain soit ainsi utilisé par les Palestiniens. Donc, d'autant plus que certains, et notamment le FPLP, voulaient le renversement du roi Hussein. Donc on a une situation où l'État souverain a fait en sorte que son armée attaque cet État dans l'État, si je fais un résumé très rapide. Et donc, il va y avoir, pendant ce mois de septembre 70, ça va durer jusqu'au moins au printemps, voire à l'été 71, de très violentes batailles qui feront des milliers de morts. C'est pas un accrochage, c'est quelque chose de dramatique, et qui vont aboutir à chasser l'organisation de libération de la Palestine, de la Jordanie. Et ils vont se réfugier. Au fond, où peuvent-ils se réfugier géographiquement et politiquement? Il faut un État faible. Et malheureusement, c'est le Liban. Le Liban a toujours été un État faible, et même pas vraiment un État. Enfin, c'est un autre débat, ça. Mais donc, ils sont retrouvés au Liban, à partir de ce moment-là. Et ils vont se retrouver au Liban, dans le sud en particulier. On va appeler ça pendant des années le Fatahland, parce que c'est eux qui, entre Beyrouth et puis le sud Liban, qui sont devenus des acteurs majeurs, avec tout ce que ça va impliquer ensuite comme assaut d'Israël dans le sud Liban où précisément se trouve l'OLP. Ça va nous emmener jusqu'en 1982 où là il y aura carrément une invasion israélienne contre les Palestiniens, mais cette invasion elle va aller jusqu'à Beyrouth. C'est l'histoire qui va faire que finalement là l'OLP et Arafat, grâce à la France, grâce à Mitterrand, vont quitter Beyrouth. Je fais un raccourci historique là très rapide, ça va de 72 à 82, hein, c'est ça cette période, et ils vont se retrouver à Tunis. Donc il y a une espèce de errance d'Arafat et de l'OLP. Ils étaient en Jordanie, ils sont expulsés, ils vont au Liban, ils sont expulsés par l'Israélien. Ils vont à Tunis et ils vont rester longtemps à Tunis. C'est toute l'histoire, au fond, de ces hommes nationalistes qui tournent autour de leur patrie sans pouvoir y revenir jusqu'au moment des accords d'Oslo où Arafat revient à travers une négociation. Vous voyez ce cycle assez terrible qui consiste à se réaffirmer pour revenir au centre, au cœur de son territoire.
Et dans cette errance, il y a des moments très intenses, et notamment en 1974, à l'ONU, nous sommes à New York, et le 13 novembre, discours de Yasser Arafat.
Innani kafa'irun min ajl al-hurriya.
Je suis un rebelle.
Innani fa'irun min ajl al-hurriya.
La liberté est ma cause.
Wa a'rafu kathirin.
Vous êtes nombreux dans cette salle.
Min al-jalisin fi hadhihi al-qa'a.
À avoir connu par le passé.
Kanu fi misl al-mawaqi'.
La même situation que moi.
Al-liyati uqatilu minha al-an.
La position de résistance dans laquelle je suis.
Min khilal nidalihim.
Et dans laquelle je dois lutter.
An yuhawwilu haqa an yuhawwilu.
Vous aussi, vous avez dû vous battre pour faire de vos rêves une réalité.
Innahum shuraka'i.
Aujourd'hui, vous devez partager mon espoir. Monsieur le Président, aujourd'hui, je suis venu un rameau d'olivier dans une main, un fusil de combattant dans l'autre. Ne laissez pas le rameau d'olivier tomber de ma main. Ne le laissez pas tomber. Ne le laissez pas tomber.
Nous étions en 1974 à l'ONU, discours de Yasser Arafat, Jean-Paul Chagnolo. Après la création de l'État d'Israël en 1948, c'était la Nakba, c'est la catastrophe pour les Palestiniens. Une longue période d'oubli, et ça c'est toujours très impressionnant à relire avec le recul. 1967, ça y est, les Palestiniens reviennent sur le devant de la scène, et il faut peu de temps. Pourquoi Yasser Arafat se trouve-t-il à l'ONU en 1974? Qu'est-ce qui s'est passé pour arriver là?
Il s'est passé beaucoup de choses. D'abord, il y a eu ce moment, disons, de violence armée qu'on vient d'évoquer avec Munich et la suite. Donc c'était vraiment la lutte armée et l'OLP et Arafat ont décidé, justement dans le débat que j'évoquais, de se tourner, sans abandonner forcément la lutte armée, mais se tourner vers la diplomatie. Et donc il y a eu tout un mouvement, mais largement soutenu, parce que comme vous disiez, nous sommes dans une période où on n'est pas si loin de la décolonisation. Il y a toute une partie de ce qu'on appelait à l'époque le tiers-monde qui soutiennent la cause palestinienne. Et donc il a réussi sur le plan diplomatique à s'imposer. Et avant d'arriver à l'ONU, il est passé par le monde arabe. Et la Ligue arabe l'a reconnu comme le représentant légitime et unique de la question palestinienne. Donc le monde arabe est avec lui. Donc, et quand il dit Monsieur le Président, quand il s'adresse à Monsieur le Président de l'Assemblée Générale des Nations Unies en ce mois d'octobre 1974, c'est qui? C'est Abdelaziz Bouteflika. Et à l'époque, c'était l'Algérie révolutionnaire. Hein, c'est l'Algérie de Boumediene. C'est encore l'Algérie qui accueille et qui a aidé le Fatah dès ses premiers moments. Donc il y a ce moment un peu particulier et les Nations Unies avaient adopté une résolution et vont adopter une résolution qui vont pour la première fois reconnaître non pas la question de Palestine parmi bien d'autres, mais vraiment la question des droits inaliénables des Palestiniens et l'autodétermination. Donc c'est un changement majeur grâce au tiers-monde finalement, grâce à ce retournement diplomatique. Et quand vous regardez les votes de la résolution qui est à ce moment-là, après, les votes, c'est très intéressant. C'est le tiers-monde. Il est majoritaire à l'Assemblée Générale. Nous ne sommes pas au Conseil de sécurité, nous sommes à l'Assemblée Générale. Et qui s'abstient? C'est l'Occident, en gros. C'est l'Occident. Et qui est contre? États-Unis, Israël. On a là, dans cette première résolution, le schéma, quoi. Et aujourd'hui, c'est pareil. Il y a ce qu'on appelle le Sud global, plutôt en faveur des Palestiniens. Et les Occidentaux sont toujours un peu sur la même position. C'est plus compliqué que ça, en vérité. Mais bon, voilà, on est toujours dans ce schéma-là. Israël faisant partie de l'Occident. Il faut dire les choses comme elles sont. Donc, 74, c'est un moment très important. Et ça va évidemment donner à l'OLP une légitimation. Il devient observateur aux Nations Unies. Il a cette reconnaissance internationale, d'abord arabe, puis ensuite internationale, qui va évidemment changer la donne à tous égards. Mais il restera, en quelques mots, la question, au fond, du nationalisme à l'intérieur des territoires occupés dont nous parlions, et en particulier la Cisjordanie, pour les raisons que je disais. C'est-à-dire que on est encore un peu jordanien. Et je voudrais juste dire trois dates, puisque il faut aller vite, même si on a beaucoup, beaucoup de temps dans votre émission, je vous en remercie. Mais la première date, c'est 1972. Au moment où il y a Munich, il y a des élections municipales en Cisjordanie. Et qui gagne ces élections municipales en 72? Ce sont les grandes familles jordaniennes. C'est pas les Palestiniens. Quatre ans plus tard, en 1976, quatre ans plus tard, élections municipales. Qui gagne les élections municipales à Naplouse, à Ramallah et dans d'autres, à Biré, même à Hébron. À Hébron, c'est moins évident. Ce sont les nationalistes qui se réclament de l'OLP. Donc ça veut dire que le moment national, international d'abord et ensuite sur le terrain, il se fait. Voilà, ce sont les nationalistes palestiniens qui gagnent, qui deviennent maires. Et d'ailleurs certains en 1980 seront attaqués, plusieurs seront blessés. Oui, on est dans ce moment où les nationalistes. Et si on continue la chronologie, nous sommes en 76. Dix ans plus tard, c'est la première intifada, en décembre 1987, et l'intifada, c'est le moment où tous les hommes et les femmes qui habitent en Cisjordanie se disent palestinien. Il n'est plus question d'être jordanien. Vous voyez, c'est tous ces mouvements. Donc la question du nationalisme palestinien, là, elle est totalement ancrée désormais. Et on ne peut plus faire l'économie. On ne peut pas dire c'est uniquement les réfugiés. Les Palestiniens sont chez eux en Cisjordanie, comme ils le sont à Gaza. La Gaza a toujours été nationaliste. Et l'intifada, je fais des raccourcis rapides, mais l'intifada, c'est le moment où le monde se dit, ah oui, ils sont palestiniens. Même le roi de Jordanie est obligé d'en tenir compte. Et en 88, oui, il fait un grand discours en disant, oui, ce territoire est palestinien. Ce territoire est palestinien. Et après, il y aura Oslo quelques années plus tard.
La guerre se fait avec des pierres, 1987.
C'est une journée qui s'annonçait paisible à Gaza. On faisait ses courses sans que rien ne vienne troubler la sérénité apparente de la petite ville. Apparente parce que nous étions vendredi, jour de prière dans tout le monde musulman. En fin de matinée, les mosquées étaient pleines, tant il est vrai que la religion est devenue ici aussi une arme. En fait, la seule façon de lutter contre les autorités israéliennes. C'est ici que les habitants de Gaza viennent parler pour évoquer la situation. Cela fait 21 ans que nous souffrons de l'occupation israélienne. Il faut que le monde sache que l'OLP est la seule organisation représentant le peuple palestinien et que notre combat continuera jusqu'à ce qu'Israël accepte la création d'un État palestinien en Cisjordanie et à Gaza. 13 heures, la prière est terminée. Tout va basculer en quelques minutes. L'armée veille à distance et l'on va voir apparaître le premier drapeau palestinien suivi du premier cocktail Molotov. Très vite, tous les quartiers autour des mosquées sont bloqués, la presse est maintenue à distance, le nettoyage va pouvoir commencer. Grenades lacrymogènes et tirs de M16, les armes sont toujours les mêmes, de l'autre côté aussi, et ce sont des pierres.
1987 sur Antenne 2. Jean-Paul Chagnoulot, en fait, histoire de reconnaissance, on l'entend dans l'archive, le drapeau palestinien qui est brandi. C'est une reconnaissance mutuelle. Du côté de l'OLP, à quel moment a lieu la reconnaissance de l'État d'Israël? Au sens où la volonté n'est plus de créer un État qui serait la Palestine avec des Juifs, des chrétiens et des musulmans. La reconnaissance d'un État.
On parlait à l'instant de l'intifada, donc qui a démarré en décembre 1987. Et au fond, c'était ce moment de renaissance du nationalisme de manière incontestable. Ça a déjà été bien entamé, comme j'ai évoqué, bien des années plus tôt. C'est une sorte de consécration, si vous voulez. Aujourd'hui, plus personne, enfin aujourd'hui, en 88, plus personne ne peut dire ce ne sont pas des Palestiniens ou il n'y a pas de peuple palestinien. Sauf vraiment ceux qui veulent être aveugles jusqu'au bout. Et donc, l'OLP devait transformer cette question de manière politique. Et comment la transformer? Ça a été le conseil législatif qui s'est tenu à Alger. Vous voyez, l'Algérie était présente avec Bouteflika en 1974, elle est présente en 88. Et là, on reconnaît implicitement Israël. En fait, on reconnaît les résolutions des Nations Unies, y compris la 181, c'est-à-dire la résolution du plan de partage. On reconnaît aussi la 242. Et donc, on est là dans une logique qui est complètement différente et qui va, au fond, être les bases d'une discussion possible, puisque désormais, ce n'est plus l'État démocratique sur l'ensemble de la Palestine où chrétiens, juifs et musulmans vivront ensemble. C'est l'idée qu'il y a des territoires occupés, on veut qu'ils soient libérés et on accepte l'idée du partage. Et ça sera la base de la négociation qui, malheureusement, fera naufrage. Quelques années plus tard, là nous sommes en 1988, ça va se faire donc en 93 avec Oslo. Mais entre-temps, les reconnaissances internationales, et à part tuer la France va jouer un rôle important, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, c'est le rôle de Mitterrand, qui va accueillir Arafat à Paris en 1989, et il y a cette fameuse phrase que tous ceux qui ont vécu ça, ils s'en souviennent, où on avait demandé, c'est Claude Cheysson qui avait dit à Arafat, il faut que vous disiez en français que votre charte qui indiquait l'État démocratique, etc., n'existe plus. Il faudrait que vous disiez un mot français qui est très précis, qui est caduc. Et alors Arafat, dans une conférence de presse, quand on lui pose la question, et votre charte 4268, il répond, elle est caduque. Elle est caduque. Ce qui montre qu'effectivement, il est sur une autre ligne stratégique et en capacité d'une négociation sur l'idée de deux États.
Et on lui dit, ça veut dire quoi, caduc? Il dit, vous irez voir dans le Larousse.
C'est
tout
ça.
Simplement. Jean-Paul Chagnoulot, pour terminer, dans le même temps se développe un autre moment en parallèle de tout ce qui se passe autour de l'Organisation de la Libération de la Palestine, qui est la montée d'autres mouvements, mais ceux-ci islamistes, c'est le Hamas qui est là et qui pointe son nez.
C'est ça, c'est-à-dire que ce qu'on évoquait tout à l'heure, les frères musulmans étaient sur une autre ligne, qui était l'islamisation de la société palestinienne, pas la résistance, pas la lutte contre l'occupant, et à partir de 87, dans des circonstances qu'on ne peut pas voir là, mais c'était d'abord le djihad islamique, enfin il y a eu des gens, des frères musulmans qui se sont dit on ne peut pas rester comme ça, il faut c'est des jeunes souvent qui sont dans cette posture, il faut se battre, et donc les frères musulmans décident la création du Hamas. Hamas, ça veut dire mouvement de résistance islamique, c'est ça l'acronyme, et donc le Hamas, il est créé en 88, et à partir de là, les islamistes deviennent un acteur important, sans être dans l'OLP. Il a été question qu'il rejoigne l'OLP, ça s'est jamais fait à ce jour, et à mon avis, c'est pas pour demain, évidemment, mais là, on a du coup une autre force, et qui sera sur une ligne politique et stratégique très différente, car eux, ils veulent toujours la violence, alors que l'OLP s'est très clairement orienté vers la négociation, puisque c'est eux qui négocient à Oslo, et si on disait en deux mots, si Oslo a échoué, s'il y a eu un naufrage d'Oslo, c'est parce que le Hamas a commis des actes, des attentats terroristes en 95-96, à des moments clés, des actes terribles, en plein cœur de Jérusalem, en plein cœur de Tel Aviv. Et puis, du côté israélien, il y avait un personnage, Premier ministre, entre 96 et 99, qui ne voulait pas d'Oslo, qui considérait que c'était le problème et pas la solution. Et ce personnage s'appelle Benjamin Netanyahou.
Voilà, cet écho à l'actualité, le Hamas, Gaza, la Cisjordanie, l'OLP et tous ces personnages. Merci vivement Jean-Paul Chagnolo de tous ces éclaircissements et nous allons poursuivre notre série sur le conflit israélo-palestinien en consacrant une émission à tous ces accords de paix, les accords d'Oslo, etc. Parce que c'est très important d'avoir ce recul historique. Merci pour votre clarté. On retrouve toute votre bibliographie, les ouvrages de référence sur le site Le Cours de l'Histoire, franceculture.fr, notamment le Rendez-vous manqué des peuples que vous avez publié chez Autre. Merci beaucoup à vous. Il est temps de retrouver Gérard Noiriel. C'est le pourquoi du comment.
Pourquoi dit-on que le traité de Paris, 1763, a mis fin à la Première Guerre mondiale ? La guerre de 7 ans, qui s'est terminée par le traité de Paris en 1763, a provoqué une césure majeure, non seulement dans l'histoire de l'Europe, mais même dans l'histoire mondiale. À tel point que, dans son Histoire des peuples de langue anglaise, Winston Churchill a intitulé le chapitre consacré à la guerre de 7 ans « La Première Guerre mondiale ». Ce conflit fut un moment essentiel dans l'histoire des luttes opposant la France, alliée à l'Autriche, et la Grande-Bretagne, alliée à la Prusse, non seulement en Europe, mais aussi dans les territoires coloniaux que les grandes puissances européennes tentaient de s'approprier. À l'issue de cette guerre, la France perdit définitivement son statut de plus grande puissance mondiale au profit de la Grande-Bretagne. Lors du traité de Paris, elle céda officiellement le Canada aux Britanniques, ce qui fut un moment essentiel dans la fondation biculturelle du Canada moderne. Louis XV céda aussi aux Anglais le bassin des Grands Lacs, la rive droite du Mississippi et plusieurs îles des Caraïbes. En Inde, la France fut dépossédée de son empire, ne conservant que 5 comptoirs. En Afrique, elle céda Saint-Louis du Sénégal, mais conserva son poste de traite des esclaves sur l'île de Gorée. Le traité de Paris permit à la Grande-Bretagne de contrôler les mers et le commerce mondial pendant 2 siècles, assurant ainsi à sa langue et à sa culture la position dominante qu'elle possède encore aujourd'hui. Comme j'aime le faire dans ces chroniques, je terminerai en donnant la parole à ceux qui n'ont pas eu voix au chapitre, bien qu'ils furent parmi les principales victimes de la guerre de 7 ans. Lors de ce conflit, la plupart des Amérindiens s'étaient engagés en effet aux côtés de leurs alliés français et canadiens. Mais lors des négociations qui aboutirent au traité de Paris, ils ne furent pas consultés. Dans une lettre adressée au roi, le dernier gouverneur de la Louisiane française déplora que la France n'ait pas tenu ses promesses à leur égard. Les Cherokees, les Choctaws et les Alibamous se sont totalement sacrifiés pour nous, sur les promesses de leur fournir leurs besoins, écrit le gouverneur. Ils sont parfaitement informés des préliminaires de paix qui cèdent leurs terres à l'Angleterre. Ils disent hautement qu'ils ne sont point encore tous morts, que le français n'est pas en droit de les donner et qu'enfin, ils savent ce qu'il leur reste à faire quand il sera question de cette cession. Il termine sa lettre par un conseil aux autorités royales. en vue de l'avenir, à assurer. Il faut payer tout ce qu'on a promis aux sauvages. Si vous approuvez mes représentations et que vous fournissez à cette colonie les moyens de travailler en conséquence, ce sera éterniser le nom français dans des nations que l'on sera bien aise de retrouver, peut-être plus tôt qu'on ne pense. Même si ce fait a été oublié, le traité de Paris fut aussi l'un des nombreux exemples des promesses faites par l'État français au peuple conquis qui ne furent jamais tenues. Il ne faut donc pas s'étonner si le nom de la France n'a pas été conservé dans la mémoire collective des nations amérindiennes.
Merci Gérard Noiriel, c'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Thomas Beau, avec aujourd'hui à la technique Étienne Rouche. Émission préparée par Jeanne Delecroate, Anton Scandiudès, Jeanne Copper, Raphaël Laloum et Maïwenn Guizhou. Merci à l'INA, à l'Institut National de l'Audiovisuel. Le cours de l'histoire, écoutez, à podcaster notre série sur l'histoire du conflit israélo-palestinien sur le site franceculture.fr et sur l'appli Radio France.